Donc voilà un homme qui, au milieu d'une foule, lève les bras avec un cri de joie, en soi rien de choquant, mais je vous reparle de lui dans quelques instants, parce qu'il illustre bien ce que l'avalanche d'images, le déluge d'images auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, a fait dans le cœur des hommes. Et évidemment, il s'agit des méfaits de l'image par rapport à notre foi. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série sur l'apostasie consacrée aujourd'hui au retour des images dans la foi des enfants de Dieu. On a vu dans une première partie pourquoi l'image était une abomination pour Dieu. On a vu quel était le problème avec l'image. Vous savez, il y a 10-15 ans, des écrans ont commencé à être installés dans les milieux chrétiens, derrière les pasteurs. Alors au départ, c'était pour diffuser les paroles des cantiques. Voilà. Puis on a mis une image d'une montagne, d'une mer. Et puis on a changé les écrans, on en a mis des plus grands. Et aujourd'hui, dans pas mal d'assemblées, on a, en tout cas dans les grandes assemblées, on a des écrans géants. Et vous savez ce qu'on diffuse sur les écrans ? Ben, on diffuse des images. Voilà. Donc au départ, c'était pour les paroles des cantiques, et puis aujourd'hui, c'est pour des images. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent devant des images de Jésus. Je vous invite à voir ma vidéo d'avant pour vous montrer à quel point il n'y a rien qui va. Et malheureusement, c'est ce qui se fait. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'image de Dieu. On va voir aussi les dangers des images en général. Et enfin, je terminerai par quelques conseils aux parents. Alors c'est parti. L'image de Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, la seule image que Dieu nous donne, c'est celle-ci. Jean 6 et verset 40, c'est Jésus qui parle. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus nous dit bien « quiconque voit le Fils ». Est-ce que vous avez vu le Fils ? Ah oui, vous l'avez vu. Mais est-ce que c'est en image que vous l'avez vu ? Non. Si vous êtes croyant, ce qu'est Jésus a été révélé à votre cœur. Colossiens 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image du Dieu invisible. » 2 Corinthiens 4, 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Jésus dira à ses disciples dans Jean au chapitre 14, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Tout ce que vous pouvez connaître de Dieu, tout ce que vous pouvez voir de Dieu, est vu en Jésus. La seule image que Dieu nous donne de lui-même est celle de Jésus. Qui est le Père ? Eh bien, nous le savons en Jésus. Mais attention, c'est une évidence, mais il vaut mieux que je le rappelle, ce n'est pas une image terrestre. Hein ? Ce n'est pas une statue, ce n'est pas un film, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas un dessin que Dieu nous a donné. Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Il a pris une chair semblable à la nôtre, il est venu vivre une vie d'homme comme nous. Et ses disciples nous ont rapporté cette vie et ses paroles. Donc l'image que nous avons de Jésus, elle est uniquement spirituelle. Au travers des paroles, des enseignements et des agissements et des œuvres de Jésus et de ce que l'Esprit nous en révèle, nous pouvons voir et connaître le Père. J'espère que c'est clair pour vous. Il a toujours refusé les représentations, car la seule qui soit conforme est celle de son Fils unique, Jésus, le Christ. C'est la seule représentation qui est conforme à l'image que Dieu veut nous donner. Et je vous ai dit, hein, dans la vidéo précédente, que lorsqu'on représente Jésus en dessin animé, en série télé, en film, etc., on représente un mensonge. C'est un mensonge qu'on représente, ça n'est pas la vérité. Parce qu'on va faire un Jésus souriant, lorsqu'il n'a pas souri. On va faire un Jésus cool, on va faire un Jésus sympathique, on va vouloir donner une bonne image de Jésus et probablement qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière tout ça. Mais ça n'est pas la vérité, parce que la vérité n'est pas transmise par l'image, mais par la parole. Je ne reviens pas dans ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Alors on va continuer. Non seulement Jésus est l'image de Dieu, mais Dieu veut que nous portions l'image de Christ. 1 Corinthiens 15, 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Colossiens 3, 9 et 10, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 2 Corinthiens 3, 17 et 18, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Trois versets pour vous illustrer une vérité claire. Jésus est l'image de Dieu, Et cette image, Dieu veut l'implanter, l'imprimer ou nous transformer en cette image. Jésus ne veut pas de représentation de lui, ou Dieu ne veut pas de représentation de lui, il veut des représentants. C'est ça le cœur de la pensée de Dieu. Dieu veut établir l'image de son Fils dans ses enfants. C'est ainsi que Dieu veut être vu des hommes. Jésus est venu en étant la lumière du monde et il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il ne nous dit pas « Soyez », il nous dit « Vous êtes ». C'est-à-dire qu'il n'y a que par ses enfants que Dieu peut être vu dans ce monde. Donc c'est évident que Dieu ne nous appelle pas à ce qu'on représente Jésus par des dessins, par des images, par des photos, par je ne sais quoi. Il veut qu'on représente Jésus par nos vies, par des vies mises à part, comme lui-même s'est mis à part. Ce n'est pas par nos arts que nous devons faire connaître Jésus, c'est par son Esprit Saint. Voilà pourquoi il nous a donné son Esprit. Nous ne pouvons pas offrir nos œuvres à Dieu pour faire son œuvre. Nous devons laisser son Esprit vivre en nous. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu se fait. Elle ne se fait pas par les arts de l'homme. Et les arts de l'homme, j'en ai parlé dans une vidéo précédente sur l'adoration charnelle, ils nous ramènent toujours à la chair. Pourquoi ? Parce qu'ils glorifient l'homme. Je vous le montre dans un instant. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus envoie son Esprit pour faire de nous ses témoins. C'est par son Esprit que nous sommes ses témoins, c'est pas par Hollywood. Jean, chapitre 6, verset 28-29. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà, on est invité à s'offrir à Dieu. Pourquoi ? Pour qu'il fasse de nous, pour qu'il façonne nos cœurs à l'image de son Fils bien-aimé. Éphésiens 2, 9. « Ça n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Quand Mel Gibson fait un film sur Jésus, Mel Gibson est glorifié. C'est l'artiste qui est glorifié. Regardez les tableaux célèbres des grands artistes. Michel-Ange a fait une représentation de David, une statue célèbre, qu'on dit magnifique, etc. Bon, ben en fait, on l'appelle le David de Michel-Ange. C'est l'artiste qui est glorifié dans une œuvre. Alors n'offrons pas à Dieu l'offrande de Caïn, nos œuvres, mais celle d'Abel, notre vie. C'est pour ça que je vous ai mis Romains 12, 1. Offrons nos vies à Dieu pour que Dieu soit vu en nous. Alors maintenant, je vais sortir brièvement de la Bible pour vous parler des dangers de l'image en général, pour vous avertir sur ce que l'image fait dans nos vies. Alors dans cette vidéo, je vais vous en montrer que de très courtes images. Ce sont des soldats de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des hommes qui vivaient majoritairement à la campagne il y a un peu plus de 100 ans. Ces hommes ne connaissaient pas la violence. Ces hommes n'avaient jamais vu de la violence, ou quasiment pas. Et ils ont été confrontés brutalement à une violence inouïe, à la mort, à la barbarie, et leur psychisme a été détruit littéralement par les horreurs qu'ils ont vues. Et à côté de ça, voici cette vidéo que je vous montrais au tout début. Cette vidéo, c'est celle d'un homme qui se réjouit au milieu d'une foule. Alors peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais c'est au moment de l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis au mois de septembre. Charlie Kirk était un chrétien américain, engagé en politique et aussi dans un combat qu'on peut dire spirituel. On peut ne pas être forcément d'accord avec lui, c'est pas le propos. Mais là, en fait, à l'instant où cet homme se réjouit, eh bien Charlie Kirk vient d'être abattu d'une balle dans la gorge. Il vient de s'effondrer et vous voyez les hommes qui sont que vous voyez accroupis là en bas à droite de l'image, c'est les hommes qui sont en train d'essayer de l'évacuer et puis peut-être de le réanimer, enfin de lui prodiguer les premiers soins. Et cet homme que vous avez vu se réjouir, je vous en mets l'image, là, voyez l'explosion de joie qu'il a. C'est saisissant. Cette explosion de joie, il l'a devant un homme qui vient de se faire abattre devant lui. Comment ça se fait? Comment un tel contraste entre ces soldats de la Première Guerre mondiale qui ont perdu la raison totalement en proie à un stress terrible et cet homme qui se réjouit devant la mort de quelqu'un qui se fait abattre devant lui? Eh bien, cet homme, c'est l'homme du 21e siècle. Cet homme a une trentaine d'années peut-être, et ça fait une trentaine d'années qu'il voit des bagarres, des meurtres, toutes sortes de crimes, d'abominations, qui voit ça à la télé devant des images. Et il a été habitué. Au point que même lorsque la chose devient réelle sous ses yeux, il a tellement vu de crimes et de choses atroces à la télé que ça ne lui fait rien. Et puis comme c'était probablement un adversaire politique, il se réjouit. Voilà, il y a eu une désensibilisation. Il y a eu une désensibilisation par l'image. Voilà pourquoi je vous parle des dangers de l'image. Il y a 4 points. Premièrement, la supériorité de l'image sur le texte. Dans le traitement de l'information, l'image est prioritaire sur le texte. Alors, quelle est la conséquence ? Eh bien, une image, surtout choquante ou émotionnelle, peut s'ancrer d'une manière indélébile dans la mémoire, bien plus qu'une insulte ou un texte. Ça, c'est un fait. C'est comme ça que le cerveau travaille. L'image favorise le traitement rapide de l'information, alors que celui du texte est lent et analytique. Quelle est la conséquence ? Eh bien, avec une image, on saute directement à la conclusion, sans analyse critique. L'image ne suscite pas la méditation. Il y a cette expression « une image vaut 1000 mots ». Parce qu'en fait, l'image est un raccourci. Le problème, c'est que on saute à la conclusion. Et on n'a pas tout le cheminement pour arriver à la conclusion. Et c'est ça le problème, entre autres. Mais ensuite, il y a émotion et désensibilisation. Le système visuel est directement connecté au système émotionnel du cerveau. L'image favorise donc la création d'émotions en nous. Les conséquences, l'émotion suscitée par une image parle à notre âme et non à notre esprit. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du fait que la parole est le véhicule de l'esprit, c'est-à-dire que les choses spirituelles passent par la parole et non par l'image. L'exposition répétée à des images violentes ou choquantes entraîne une diminution de la réponse émotionnelle et empathique. C'est pourquoi je vous montrais ces vidéos. Dans les années 90-2000, les rapports estimaient qu'un enfant ayant une consommation moyenne de télévision, 2 à 3 heures par jour, aurait vu à la télévision à 18 ans environ 16 000 meurtres, 200 000 actes de violence, incluant bagarres, agressions, scènes de guerre, etc., etc. Je vous donnerai 2 liens dans la description au sujet de ces études, mais ces 2 liens parmi beaucoup d'autres. Si vous faites des recherches là-dessus, vous verrez, c'est quand même bien documenté. Troisième point, manipulation et influence. Il y a un pouvoir de la preuve par l'image. Notre cerveau tend à considérer une photo comme une preuve objective du réel. Tromper avec un texte mensonger demande de contredire un raisonnement. Mais tromper avec une image manipulée exploite un biais cognitif profond. Nous voulons croire ce que nous voyons. Donc c'est plus facile de tromper avec une image qu'avec un texte. C'est ça que ça veut dire. Normalisation par des personnes influentes. Certaines manières d'être, certains agissements qu'on aurait rejetés au départ deviennent acceptables lorsqu'on les voit chez les personnes faisant autorité dans leur domaine. C'est pour ça que je vous parlais des pasteurs qui maintenant se mettent à prêcher avec un écran derrière eux. Et parfois cet écran diffuse, montre des images de personnages bibliques, des images de Jésus, des extraits de films sur Jésus. Voilà. Et comme les pasteurs prêchent devant, eh bien, on se dit que tout va bien. Quatrième point. Le comportement social, modification de l'estime de soi et de son image corporelle, les conséquences, exposition à des visages et des corps idéalisés augmentent l'insatisfaction, la dépression et les troubles alimentaires, surtout chez les jeunes. L'image, c'est un danger. Et c'est pas pour rien que notre société est addicte aux écrans. Et nous-mêmes, enfants de Dieu, on a des problèmes avec ça. Propagation des peurs et anxiétés collectives à la suite de chocs visuels. Les conséquences, ça génère des peurs disproportionnées par rapport au risque réel. On a eu des attentats islamistes en France, et tout d'un coup, on se met à avoir peur qu'il y ait un attentat près de chez nous, alors que statistiquement, il y a infiniment plus de risques d'avoir un accident de voiture que de mourir dans un attentat. Mais comme à un moment, on a cette exposition dans les médias à des images d'explosions, d'attentats, de choses comme ça, eh bien, cette peur s'installe. Donc l'image, pour nous, enfants de Dieu, c'est quelque chose dont il faut se méfier dans notre vie de tous les jours. C'est que cette exposition, cette surexposition à toutes les images a des conséquences terribles pour notre foi. Et dans le domaine spirituel, je le répète, elle est à proscrire entièrement, totalement. Enfin, je vais terminer par quelques conseils aux parents. Alors, avant tout, ce que je vais vous dire là, c'est simplement ma propre expérience. Ce sont des conseils, donc vous les prenez, vous les prenez pas. Mais si vous n'avez pas fait comme ça avec vos enfants, ne culpabilisez pas, il n'y a pas une bonne manière de faire. J'ai raté des choses dans l'éducation de mes enfants, comme tous on peut se rater, ça n'a pas empêché Dieu de toucher leur cœur. Et Ce n'est pas ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait avec vos enfants qui est déterminant. Dieu est souverain, Dieu peut passer par-dessus toutes les choses qu'on a pu mal faire. On peut citer cette parole de Paul qui nous dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître ». Moi, je ne vous donne que quelques conseils de ma propre expérience. Vous prenez les choses qui vous parlent ou pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis anonyme, vous ne me connaissez pas. Quelle est ma légitimité par rapport à vous ? Bien, je suis un enfant de Dieu qui est au Seigneur depuis 22 ans et j'ai élevé mes enfants dans la foi. Je leur ai parlé du Seigneur dès l'âge d'environ 3 ans. Et aujourd'hui, ce sont de jeunes adultes qui sont baptisés d'eau et d'esprit, qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Voilà ma seule légitimité, vous en faites ce que vous voulez. Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc voilà notre responsabilité de parents. Mais comment faire pour instruire l'enfant ? Bon, ben alors, le premier conseil avec tout ce que je viens de vous dire, c'est éloigner vos enfants des écrans le plus possible, et ce, dès leur plus jeune âge. Surtout pendant leur plus jeune âge. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas de frustration s'ils sont habitués à ne pas regarder d'écran. Si vous leur mettez des écrans, puis qu'après vous leur enlevez, forcément ça va les frustrer, ça risque de les frustrer. Mais le fait de ne pas leur mettre d'écran, eh bien, cela implique de l'engagement de votre part. Ça va vous obliger, vous, à leur proposer des activités. C'est vrai que c'est du travail, mais c'est notre devoir de parents. Et c'est très profitable pour eux sur le long terme. La société nous vole du temps. On va toujours se dire « Ah, mais j'ai pas le temps, je préfère les mettre devant un dessin animé. » Mes enfants ont grandi sans télé. Et d'après leur témoignage, c'était même un problème la télé quand ils allaient chez d'autres personnes qui avaient des télés, grand écran, où on mettait cette télé en fond. Ça les dérangeait beaucoup parce qu'ils n'étaient pas habitués et on vit très bien sans télé, je vous le dis. N'utilisez aucun support visuel pour les moments spirituels avec eux. Au commencement était la parole. Vous n'avez pas besoin de livres avec des représentations des récits bibliques pour leur communiquer la foi. Au contraire, les images s'adressent à leur âme, la parole s'adresse à l'esprit. Découvrir la parole de Dieu au travers de vous ouvrira leur esprit à la foi véritable. Il est donc primordial que vous passiez du temps avec eux à leur lire la Bible et leur expliquer. C'est à vous de le faire. Ne comptez pas sur l'école du dimanche. C'est vous, parents, qui devez enseigner vos enfants. C'est à vous que Dieu a donné une autorité pour le faire. Et votre parole est puissante dans leur cœur pour susciter la foi. Je vous le dis de tout mon cœur. Lisez-leur la Bible, pas des livres pour enfants sur Dieu. J'insiste là-dessus. Dès 3 ans, moi j'ai commencé avec mon fils, il avait 3 ans. J'ai ouvert un évangile, j'ai commencé par lui dire « Voilà, je vais te parler de Jésus ». Et j'ai commencé à lui lire l'histoire de Jésus. Alors, bien entendu, j'ai pas lu les généalogies quand il avait 3 ans, vous vous doutez bien. Mais on peut prendre les premiers chapitres et on peut leur raconter. On peut éventuellement sauter des passages qui seraient trop compliqués à leur expliquer pour leur âge. On va adapter, mais dès 3 ans, on peut faire ça. Et les évangiles abordent énormément de principes de la vie quotidienne. Vos enfants les découvriront avec vous, ces principes. Le pardon, venir en aide aux autres, toutes sortes, la mort, etc. C'est des choses que l'enfant va vous demander et vous allez pouvoir lui expliquer. Et puis, je vous garantis que le Seigneur vous enseignera des choses au travers de ces moments-là. Lisez dans votre Bible d'adulte, expliquez-leur les mots difficiles et ils s'en souviendront. Voilà. Moi, mes enfants, à 5 ans, ils savaient ce que c'était qu'un sacrificateur. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait lu dans les évangiles. Et les sacrificateurs, je leur expliquais que c'était les hommes qui faisaient des sacrifices à Dieu, donc qui tuaient des animaux pour Dieu. Alors, ah ouais, mais pourquoi ils faisaient ça au début, etc. Ben, voilà, il faut expliquer toutes ces choses. Et si on ne le sait pas nous-mêmes, ben, ça nous fait chercher le Seigneur pour qu'il nous explique lui-même ces choses. Parlez-leur de Jésus. Agrémentez vos moments spirituels avec eux, de témoignages que vous avez vécu avec le Seigneur. Comment Jésus s'est révélé à vous, comment Dieu est venu à votre secours dans certaines circonstances de votre vie, etc. Écoutez les questions qu'il vous pose, car Dieu vous parlera aussi au travers de vos enfants. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit le Seigneur. Donc par les questions qu'ils vont vous poser, Dieu va vous parler, Dieu va vous interpeller, Dieu va vous amener vous-même à réfléchir sur des choses auxquelles vous n'aviez pas réfléchi. 5. Ayez des moments spirituels avec eux tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année. Vous allez me dire, mais pourquoi tous les jours ? Prenez l'habitude d'instaurer au moins une fois par jour un moment spirituel avec eux, matin ou soir par exemple. N'en faites pas une loi, hein. Il ne s'agit pas d'en faire une loi rigide, mais adaptez la durée de ce moment à l'âge de l'enfant et aux circonstances et persévérez à leur montrer que notre relation avec Dieu doit être quotidienne. Moi, mes enfants, après le repas du soir, on prenait un moment avec le Seigneur. On chantait un ou deux cantiques, on lisait un petit passage de la Bible, on en parlait, il me posait des questions souvent, et puis on terminait par prier le Seigneur. Et ça, de leurs 3 ans à leur conversion, à jusqu'à 17-18 ans, on a fait ça avec mes enfants. Quand je vous dis tous les jours de l'année, c'est... Moi, je souhaitais le faire tous les jours de l'année avec eux. Bon, il y a bien sûr, il y avait des circonstances. Parfois, ils étaient malades, parfois, ils étaient fatigués, parfois, ils étaient un peu malades parce que c'était compliqué, etc. Mais quand on instaure que c'est quelque chose de quotidien, eh bien, en fait, les enfants le comprennent et l'acceptent. Et il y a eu des moments où, quand ils étaient petits, bah, c'était 10 minutes. Voilà. Quand ils avaient 3 ans, c'était 10 minutes, un quart d'heure avant de dormir. Il y a eu des moments dans leur vie où ils avaient énormément de questions. Parfois, on y passait presque une heure. Et ça, bah, c'est de l'or pour leur foi. Vous leur donnez des pépites à vos enfants. Et vous allez me dire, mais en vacances, regardez ce que nous dit Deutéronome 6, verset 7. « Tu les inculqueras, mes lois, mes paroles, à tes enfants. » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez combien c'est utile l'Ancien Testament pour comprendre la pensée et la volonté de Dieu? Parce que quand Paul, dans le Nouveau Testament, il nous dit « instruis l'enfant ». Il nous dit d'instruire l'enfant dans le Seigneur. Mais dans l'Ancien Testament, il nous dit bah, « quand tu es à la maison et même quand tu es en voyage bah, ». Vous pouvez le faire pour qu'il voie qu'il n'y a pas de vacances dans votre foi. Votre foi, elle est à vivre dans votre quotidien. Et enfin, bien sûr, vivez la parole devant eux. Ne leur montrez pas des dessins animés sur la Bible, vivez la parole devant eux, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Chaque circonstance de votre vie quotidienne deviendra une occasion de leur montrer la mise en pratique de la parole du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ deviendra concret, vivant, pour eux. Vous êtes les témoins de Christ devant vos enfants. Quand ils verront peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a offensé et qui vous verront lui dire « bah écoute, je te pardonne », quand vous-même, vous viendrez les voir en vous disant bah, « écoute, là, je t'ai grondé, mais j'étais énervé, je te demande pardon, j'aurais pas dû te gronder bah, », ils verront l'évangile en œuvre. Mais surtout, éloignez-vous des images, et surtout des images bibliques pour leur enseigner, des représentations bibliques, dessins animés, séries télé, etc. Ils ont besoin de la parole de Dieu et pas des images des hommes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.